Oh pardon, pas de tapis aujourd'hui, mais c'est pas très très grave. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous dans le Pédalo. Au programme du Pédalo ce soir, on va écouter un reportage et une interview réalisée par la radio La Tribu. Le bassin versant Brivet-Brière s'étend sur 800 km entre l'estuaire de la Vilaine et celui de la Loire, de la presqu'île de Guérande jusqu'au canal de Nantes à Brest. Il couvre 37 communes réparties entre la Loire-Atlantique et le Morbihan. Depuis sa création en 2011, le syndicat du bassin versant du Brivet œuvre à la mise en œuvre des politiques de l'eau, notamment sur la prévention des inondations et la restauration des écosystèmes aquatiques. Sur le site de Boitouze à Prinquiot, deux jeunes reporters de la tribu vont nous emmener là où coule une rivière restaurée en 2023 par le syndicat. On aura également la chronique de Thomas et la revue de presse d'Élise. Voilà, vous savez tout, ajustez votre gilet de sauvetage. Le Pédalo part à l'abordage.
Le Pédalo sur Radio Campus Angers.
Seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Bonjour, c'est Laurice et Mylène. Aujourd'hui, la tribu vous propose un reportage autour de la gestion de l'eau en Brière, un enjeu crucial sur notre territoire.
Nous sommes allés dans les bureaux du syndicat du bassin versant du Brivet, à Pontchâteau. Nous avons rencontré Justine Malgogne et Emmanuel Hérault qui travaillent pour le syndicat. Leur rôle au quotidien est de gérer l'eau en Brière, mais pas que.
Justine va nous en dire plus.
Alors, le syndicat du bassin versant du Brivet, c'est une collectivité territoriale. Notre rôle est de travailler sur les milieux aquatiques, donc on va faire la gestion, l'entretien et la restauration des milieux.
Quels sont les territoires concernés par ce syndicat ?
On travaille sur un territoire qui s'appelle le bassin versant du Brivet. En fait, ça représente la cuvette qui va récupérer toutes les eaux de pluie qui vont finir par sortir dans le Brivet en fin de parcours.
Et les objectifs de ce syndicat, ce sont lesquels ?
Alors, notre objectif, c'est la préservation et la restauration des enjeux liés à l'eau, pour pas qu'il y ait trop de pollution, pour pas qu'il y ait trop de détérioration des milieux. Et puis, on travaille aussi sur la restauration, c'est-à-dire que ce qui n'est plus en bon état, on essaye de revenir en arrière. Moi, je travaille sur les rivières, pour qu'elles aient un meilleur fonctionnement, pour conserver l'eau sur les périodes hivernales, éviter les inondations sur les zones urbanisées et restocker l'eau dans les sols pour qu'en période estivale, il y ait toujours de l'eau qui coule dans les rivières.
Merci Justine. Maintenant, on va parler d'un autre métier présent dans le syndicat du bassin versant du Brivet. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, alors je m'appelle Emmanuel Hérault et moi je m'occupe du pôle gestion hydraulique au sein du syndicat. On va plus s'occuper de la régulation des niveaux d'eau par le biais des vannages qui sont présents sur notre territoire. Ce sont des écluses, en fait, mais pas au sens navigable du terme, mais qui permettent d'évacuer ou non les cours d'eau vers la Loire.
Comment on sait si on doit évacuer l'eau ou pas ?
En fait, on a deux grandes périodes de travail différentes au sein du syndicat. On a la période d'évacuation qui commence en novembre et qui se finit généralement en mai, où là, on va chercher à évacuer au maximum l'eau qui est présente sur notre territoire pour éviter les inondations. Et l'autre période de travail, c'est la période estivale, où là, par contre, il n'y a plus d'eau qui arrive sur notre territoire. Et donc, on va chercher à conserver au maximum l'eau dans les cours d'eau. Donc là, on arrête d'évacuer et on ferme tous nos ouvrages pour conserver cette eau au maximum.
Pourquoi cette gestion de l'eau, elle est importante ?
En premier lieu, ça va être déjà d'éviter les inondations, mais le niveau d'eau est important pour beaucoup d'usagers différents, comme des agriculteurs, des pêcheurs, des chasseurs, et voilà.
Pensée locale, un enjeu de société.
Nous avons quitté les bureaux et nous avons pris la voiture en direction de Prinquiot pour découvrir un ruisseau qui a été rénové par Justine et les équipes du syndicat du bassin versant du Brivet.
Justine, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on regarde ici ?
Alors ici, on est sur le site de Boitouze à Prinquiot. Donc c'est une rivière qu'on a restaurée en 2023. On voit une rivière qui coule, avec de l'eau qui chante, pas mal de cailloux apparents, des petits virages et puis de la végétation de bord de cours d'eau. On est juste au-dessus du bourg de Prinquiot qui subit des inondations régulièrement. Donc la commune nous a demandé de faire ce qu'on pouvait pour essayer de limiter les inondations du bourg et que l'eau déborde un maximum ici. L'eau qui stagne ici, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'infiltre dans
dans le sol. Et c'est elle qui va nourrir la nappe phréatique. Et quand cet été, il n'y aura plus de pluie, et bah, toute l'eau qu'on a stockée ici, elle va permettre de renourrir la rivière pour que l'écoulement continue. Alors, les travaux sur la rivière, c'est toujours très impressionnant parce qu'on vient avec des grosses pelleteuses, des gros camions et on transporte du caillou, il y a de la poussière, il y a du bruit. Mais les travaux qu'on fait, en fait, ils permettent à la rivière de retrouver sa naturalité et elle la retrouverait pas sans notre aide. Quelques années après les travaux, la nature reprend ses droits. Et ce qui est très chouette, c'est que la rivière, elle mobilise ses sédiments. Les cailloux que j'ai posés, elle les déplace pour les redéposer dans des endroits qui lui conviennent mieux à elle.
Et les pierres qui ont été installées dans la rivière, elles viennent d'où ?
Alors, c'est des pierres de carrière. C'est une vraie question qui nous interroge, nous, en tant que techniciens rivière. Finalement, on creuse dans un endroit pour aller combler un autre.
Merci Justine et merci Manuel.
Ce reportage a été réalisé par Loris et Milan, jeunes reporters de la tribu à Saint-Nazaire.
Pensée locale, un enjeu de société.
Je m'appelle Yann Lejeune, je suis géo-archéologue au service archéologie de Loire-Atlantique. Le travail qu'on mène sur le marais de Brière, c'est un travail déjà qui a lieu dans le cadre de l'archéologie préventive, donc c'est lié à des travaux. Ces travaux, ce sont les travaux de curage des canaux du marais. Et nous, en fait, on suit ces travaux-là pour vérifier qu'ils ne détruisent pas des vestiges archéologiques et si jamais ils en touchent, de pouvoir les observer, les documenter, etc. Et donc ça fait, cette année, c'est la cinquième année où on fait ça. Où on suit en fait les pelles mécaniques qui enlèvent la vase qui a bouché les canaux et qui racle les bords. Et nous, on observe à la fois les vestiges archéologiques qui peuvent être présents et également les stratigraphies, c'est-à-dire les différentes couches qui composent le marais de la Brière, notamment les tourbes, etc.
Et comment les découvertes archéologiques du marais de Brière permettent de mieux comprendre l'évolution des milieux aquatiques qu'il y a eu ?
Alors en fait, le marais de Brière tel qu'on le connaît actuellement, il est lié à un phénomène assez particulier, c'est que il y a 6000 ans, le marais de Brière, ça faisait partie de l'estuaire de la Loire. Donc il y avait un peu comme dans l'estuaire de la Loire, quand c'était marée basse, il y avait de la vase. Puis quand c'était marée haute, il y avait de l'eau. Donc c'était vraiment une baie avec des îles et qui était remplie à marée haute par la mer. Ce qui s'est passé, c'est que la Loire, elle a déposé des sédiments. Vous savez que les rivières déposent des sédiments lors des crues. Mmh. Et donc entre Donge et Saint-Nazaire, la Loire, elle a déposé des sédiments et ça a fini par séparer cette grande baie de l'estuaire de la Loire. Et à partir du moment où ça s'est passé, eh bien ça s'est comporté comme un lac, en fait, avec des plantes qui poussaient en bordure, notamment des roseaux. Et ces plantes-là, quand elles poussaient, elles vivaient, elles mouraient. Quand elles mouraient, elles tombaient dans l'eau. Et dans l'eau, il n'y a pas d'oxygène, donc le carbone n'est pas oxydé. Donc les plantes, elles sont conservées. Et du coup, après, ces plantes, elles s'accumulent les unes au-dessus des autres et ça forme ce qu'on appelle la tourbe. Alors, quel est l'intérêt ? C'est qu'en fait, tout ça fait un contexte où il n'y a pas d'oxygène et où on a de la terre, donc qui sont en fait des végétaux en décomposition, qui s'accumulent les uns au-dessus des autres, et comme ça pendant des milliers d'années. Et le fait qu'il n'y ait pas d'oxygène, ça conserve tout, c'est-à-dire que les bois ils sont conservés, les plantes sont conservées, tout est conservé dedans, et donc nous après quand on étudie toutes ces couches, si on étudie précisément par exemple quel type de plante on avait à quelle époque, et après le temps passe, donc on remonte un petit peu dans la stratigraphie de quelques centimètres, on peut refaire une autre description et voir comment ça a évolué entre les deux. Et donc notamment il y a eu des travaux très connus qui ont été faits sur les pollens. Donc les pollens, on les connaît pour les allergies, ça vient des plantes à fleurs. Et ces pollens-là, ils se conservent très très bien dans ce type d'environnement où il n'y a pas d'oxygène. Et les pollens, ils sont liés à chaque fois à des espèces de plantes. Et en analysant quel type de pollen on trouve, donc un pollen, les gros pollens, ils font 200 microns, c'est-à-dire 0,2 mm à peu près. Les autres sont très petits, autour de 10-20 microns. Et donc tous ces trucs-là, on peut au microscope les analyser, repérer les types de plantes qu'il y avait et avoir comme ça toute l'histoire de la végétation et aussi de l'impact de l'homme sur l'environnement. Donc on voit en fait comme ça l'arrivée des premiers agriculteurs dans le coin, les premiers défrichements, la première attaque de la forêt primaire, etc., etc., jusqu'à maintenant.
Ça vous permet du coup d'en apprendre plus sur les relations entre les sociétés anciennes et celles de maintenant ?
Exactement. Et ça, c'est le travail d'un géoarchéologue, justement, de travailler sur la relation entre les humains et la planète, mais dans le temps.
Et par contre, il y a des connaissances historiques sur le marais de Brière et il y a des enjeux actuels de préservation du marais, donc dû au changement climatique, etc.
Oui.
Quels sont les liens entre ces deux facteurs ?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, les problématiques qu'on a actuellement sur la Brière, c'est-à-dire de se dire, par exemple, la problématique de la remontée du niveau marin, d'accord ? Vous connaissez la problématique de changement climatique, remontée du niveau marin, dilatation des océans, etc. Ça fait que, logiquement, alors je peux pas vous dire exactement dans combien de temps, puis il faudra voir comment les gens, ils le gèrent, mais dans un siècle, il y a des fortes chances que ça puisse redevenir maritime. Alors, si ça redevient maritime, nous, on sait très bien à quoi ça correspond, puisqu'on voit tout à fait, on a ces environnements-là dans les archives, on appelle ça des archives sédimentaires. Dans les archives sédimentaires de Brière, on a un moment où la Brière, elle était maritime. Donc on sait à quoi ça correspond et à quoi ça peut correspondre en termes de salinité, etc. Après, on a aussi d'autres résultats qui sont en lien avec les problématiques actuelles. C'est que par exemple, actuellement, on a une déprise agricole en Brière, globalement. Ça veut dire qu'on a de moins en moins d'agriculteurs. Ils vont tous plus ou moins partir à la retraite. S'il y a moins de vaches en Brière, les vaches, elles mangent, il y a moins de vaches pour manger des plantes, donc ça veut dire que les arbres, ils vont revenir. Et normalement, s'il n'y avait pas de pâturage en Brière, il y aurait des arbres un peu partout, au moins autour de la Brière, peut-être pas dans le centre, mais partout autour, on aurait des saules, des bouleaux, etc. Ce qui commence déjà à se faire, depuis 10-20 ans, on commence à avoir des arbres qui sont en phase de reconquête sur la Brière. Et en fait, nous, ça correspond à des phases qu'on connaît en Brière et qu'on a repérées dans la tourbe. Des phases qui sont, on va dire, autour de, il y a 3000 ans à peu près, où on a eu des phases comme ça, où la Brière, elle était recouverte de saules et de bouleaux. Et donc les gens voyaient pas du tout, avaient pas du tout le même paysage qu'actuellement. Donc toutes ces problématiques, en fait, qui sont des problématiques sur le futur de la Brière, nous, on a des exemples de ces environnements illustrés dans le passé.
Donc en fait, c'est un peu quelque chose qui est cyclique finalement.
Alors, le côté cyclique, c'est toujours un peu particulier, c'est-à-dire que ce sont pas les mêmes phénomènes qui produisent les mêmes effets, mais on peut avoir des résultats qui sont identiques.
Des choses qui sont similaires et qui s'y reproduisent, quoi.
Mais pas
toutes.
Non, parce qu'en fait, nous, quand on regarde dans le temps, là je vous parle d'une entre 4000 ans avant Jésus-Christ et puis zéro, on est dans un environnement qui n'a rien à voir avec l'environnement actuel, notamment en termes de pression anthropique, c'est-à-dire de densité d'humains au mètre carré.
Tout change.
Actuellement, on est vraiment très très nombreux, d'accord ? Donc la pression que les humains ont sur l'environnement n'est pas du tout la même que celle qui existait avant. Donc on peut pas automatiquement répliquer ce que nous on observe. Le premier point, c'est ça, c'est-à-dire la densité démographique. Je rappelle qu'on est 8 milliards sur Terre et qu'il y a simplement 200 ans, on était 1 milliard. Donc, on a fait x8. Donc, imaginez, quand on était, il y a 4000 ans avant Jésus-Christ, on était peut-être 60 millions sur la planète au total. Donc, faut imaginer qu'en termes d'impact sur l'environnement, ça n'a rien à voir. Donc, les phénomènes que nous, on peut voir dans le passé, avec cette crise, en fait, démographique, donc le fait qu'il y ait énormément d'humains et que ça se multiplie et qu'ils aient une pression, en fait, sur l'environnement qui est de plus en plus forte, c'est quelque chose qui est assez inédit. On peut pas vraiment se servir des archives par rapport à ça. L'autre problème aussi, c'est que le changement climatique qu'on a actuellement, nous, on voit des changements climatiques antérieurs, mais ce sont des changements naturels et ils sont très, très lents. Et là, le changement qui est en train de se mettre en place, qui est en place actuellement, avec la remontée des températures, les modifications au niveau des courants marins, les modifications au niveau de la météo, la remontée du niveau marin avec la dilatation des océans, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide que tout ce qu'on a dans nos archives climatiques. Donc c'est très difficile de pouvoir faire de la prospective avec un phénomène aussi radical.
Mais pour le coup, ces recherches, comment elles peuvent contribuer à la sensibilisation du grand public aux enjeux écologiques, vous pensez, Yann ?
Moi, je pense que déjà, faire comprendre aux gens que l'environnement, il a tout le temps changé, naturellement, et qu'en fait, les gens arrêtent aussi de vouloir fixer des environnements. Les humains, en fait, ils vivent pas longtemps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ils vivent, je vais dire un siècle, parce que je suis gentil. Un humain, imaginons que ça vive un siècle. Faut bien voir que les changements environnementaux et la dynamique et la temporalité des environnements qui sont autour, elle est beaucoup plus longue que ça. C'est plusieurs siècles. Donc, on peut pas, en fait, juste en faisant des actions de « on va curer ci, on va faire ci, on va couper ça, on va favoriser telle espèce, etc. » Comment dire, c'est vraiment s'amuser avec un système qui, lui, met des siècles à se stabiliser. Donc, arrêter de jouer aux apprentis sorciers avec ces environnements-là et essayer de faire qu'ils se stabilisent naturellement sans mettre votre main là-dedans. L'autre truc qui serait bien aussi, c'est de justement leur faire comprendre que l'environnement, il était différent avant et il correspondait pas de tout temps à ce que vos parents ont connu, par exemple. Par exemple, le fait de faire des curages en brière avec des pelles mécaniques, c'est quelque chose qui n'existait pas avant la Deuxième Guerre mondiale. Les gens, eux, ils considèrent que ce qui se faisait dans les années 50, c'est toujours fait, ce qui est faux. Donc, bien leur faire comprendre que, ben non, en fait, si on regarde objectivement l'évolution de l'environnement et des pratiques et des liens entre les humains et le marais, bah, les pratiques qu'ils ont mis en place depuis que l'humain a du pétrole, de l'énergie et qui peut faire des gros trous avec des pelles mécaniques, bah ça c'est un luxe qui date d'après la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'avant les gens ils vivaient très bien en brière, en se baladant en barque, sans faire des canaux partout quoi.
Eh ben écoutez, merci beaucoup à vous.
Bah je vous en prie.
C'était L'eau, un enjeu de société, une série spéciale de la Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Vous êtes toujours à l'écoute du Pédalo sur Radio Campus Angers. Il est 18h20.
Le Pédalo sur Radio Campus Angers.
Et c'est l'actualité de la semaine à Angers avec Eline, un partenariat entre Radio Campus Angers et Angerville Actu. Salut Eline.
Salut Hugo.
Tout de suite, tu nous fais le récap des actus angevines de la semaine. Et en ce milieu d'année, la préfecture de Maine-et-Loire annonce que 24 personnes ont perdu la vie sur les routes du département en 2025.
Ce chiffre marque une hausse préoccupante par rapport aux années précédentes. À la même période, on comptait 14 décès en 2024 et 16 en 2023. Le nombre d'accidents corporels est passé de 314 en 2024 à 340 cette année, soit une progression de plus de 8%. Le nombre de blessés suit la même tendance avec 404 victimes recensées depuis janvier contre 370 l'an dernier à la même période, soit une hausse de plus de 9%. Face à cette situation, le préfet appelle à la vigilance et rappelle l'intensification des contrôles routiers, notamment par l'usage de radars embarqués. Pour sensibiliser les usagers, des actions de prévention seront organisées lors du passage du Tour de France féminin à Angers et Saumur fin juillet.
Le magasin de chaussures Bocage, situé place du Ralliement Angers, a fermé début juillet.
Il s'agissait de l'un des deux points de vente de l'enseigne dans le centre-ville. C'est donc un Columbus Café qui ouvrira à l'automne après des travaux. Ce coffee shop sera exploité en franchise par la société Welcome, filiale du groupe Eram. L'enseigne signe ainsi son retour en centre-ville après avoir quitté le boulevard Foch en 2021. Depuis, elle n'était présente qu'au centre commercial Atoll. Le nouveau Columbus Café s'étendra sur deux niveaux et proposera environ 100 places assises dans un espace de 200 mètres carrés.
Les amateurs de café n'ont pas besoin d'attendre d'ici là pour en consommer, puisque un café culturel a ouvert ses portes dans la Doutre.
Baptisé ces mots, ce lieu a été imaginé par Emma Joyot et Waël Raoul, deux anciens parisiens passionnés de jeux de société et de bandes dessinées. Ouvert au 23 rue Beaurepaire depuis le 21 juin, le café propose des BD à lire sur place et des jeux à partager. Emma prépare chaque jour des pâtisseries maison, bientôt complétées par une offre salée, où les produits y sont bio et issus de circuits courts. Dès la rentrée, le lieu accueillera concerts, ateliers, clubs de lecture ou expositions. Une petite friperie avec vêtements et livres d'occasion complète l'espace. Et ces mots est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h.
En parlant friperie, une nouvelle boutique vintage a lancé son activité début juin.
Créée par Aymar, 21 ans, Azure Vintage Store propose des vêtements et accessoires rétro inspirés de la culture américaine au 6 rue Montaut à Angers. Souhaitant se détacher de l'image classique des friperies, le lieu est tout de même pensé comme une alternative à la fast fashion. L'offre, mixte et accessible, se compose d'environ 200 pièces sélectionnées à la main, principalement à Paris. La boutique associe modernité et charme des vieilles pierres angevines et propose aussi un service d'upcycling et de retouche. Aymar met par ailleurs un point d'honneur à raconter l'histoire des vêtements, que ce soit dans son local ou sur Instagram. Pensé comme un lieu vivant, des DJ sets y sont déjà organisés et un projet de clip avec des rappeurs locaux est également prévu.
Pour continuer sur les nouveaux commerces qui arrivent en ville, l'enseigne Aromazone va s'implanter à Angers, Eline.
L'espace libéré par le départ de l'enseigne Emma a trouvé preneur dans la galerie du centre commercial Espace Anjou. La célèbre enseigne de cosmétiques et d'huiles essentielles Aromazone ouvrira une boutique entre la fin septembre et la mi-octobre sur un peu plus de 300 mètres carrés. Née en 1999, l'enseigne Aromazone s'est d'abord fait connaître sur Internet grâce à son site de vente en ligne avant d'ouvrir petit à petit des boutiques à travers la France. À ce jour, Aromazone compte 23 points de vente, principalement dans les grandes villes de l'Hexagone. L'enseigne a ouvert une boutique en Belgique et prévoit également de s'installer à Londres d'ici la fin de cette année.
Et puisque tout le monde s'installe à Angers, ben là, cette fois, c'est la thématique de la santé. C'est un centre de soins dentaires qui prendra place au CHU d'Angers très bientôt.
Annoncé en début d'année par le CHU d'Angers, le centre d'enseignement et de soins dentaires ouvrira bel et bien ses portes à la rentrée. Le projet, mené en partenariat avec l'Université de Nantes, sera doté de 6 salles de consultation, dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite. Cette dernière permettra de réaliser des soins dentaires courants non urgents et de prendre en charge des patients vulnérables ou fragiles. À terme, une équipe composée de 12 à 15 étudiants dentistes, encadrés par des dentistes seniors, hospitaliers et libéraux, mèneront les consultations. L'objectif de ce nouveau centre est également d'encourager l'installation de jeunes praticiens sur le territoire.
Et on passe au niveau national avec la loi Duplomb dont vous avez peut-être entendu parler. Bah, figurez-vous que dans le Maine-et-Loire, ils sont 6 députés sur 7 à l'avoir voté.
Adoptée le 8 juillet à l'Assemblée nationale, la loi Duplomb vise à alléger certaines règles pour les agriculteurs, notamment en réautorisant temporairement l'acétamipride, un pesticide interdit depuis 2020. Le texte facilite aussi la construction de bâtiments agricoles et soutient les projets de retenue d'eau, ou autrement dit de méga-bassines. Si la loi est saluée par la FNSEA, elle demeure très critiquée par la Confédération paysanne et plusieurs associations de santé. Dans le Maine-et-Loire, donc, 6 députés sur 7 l'ont soutenue. Il s'agit d'Anne-Laure Blin, Philippe Bolo, Nicole Dubré-Chira, Denis Masséglia, François Guernigon, ainsi que Laetitia Saint-Paul. Seule la députée Stella Dupont a voté contre dans le département, dénonçant un texte flou et insuffisamment protecteur pour la santé et l'environnement.
Merci beaucoup, Éline.
Merci à toi.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Et à tes côtés, Éline, dans le studio, Thomas. Salut Thomas.
Salut Hugo, bonjour, bonjour à tous.
Tu viens nous parler des bâtiments et du réchauffement climatique, puisqu'en fait, il y a un impact de la construction sur le réchauffement climatique.
Tout à fait. Un secteur qui, depuis plusieurs années, bouge dans l'ombre, mais qui, pour autant, reste essentiel pour notre transition énergétique. Alors, si pour la plupart d'entre nous, aujourd'hui, construction, infrastructure et aménagement pour lutter face au changement climatique nous font penser à ces multiples appels téléphoniques me demandant si je suis intéressé pour installer des panneaux sur le toit d'une maison, il n'en reste pas moins essentiel pour nous de comprendre en quoi protéger, rénover et surtout repenser notre mode de construction reste un enjeu majeur dans la transition écologique et énergétique qui nous attend. Alors, si récemment le sujet semble être revenu rapidement sur la table avec les deux épisodes successifs qui ont touché le pays en juin dernier, de chaleur qui ont touché le pays en juin dernier, la construction reste encore aujourd'hui un domaine très polluant, représentant en 2022 en France près de 23% des émissions de gaz à effet de serre du pays sur un an selon les chiffres du ministère de la Transition écologique.
Des émissions tout autant liées à la construction en elle-même qu'à l'entretien ou aux édifices en eux-mêmes.
Tout à fait. Un point d'ailleurs souvent négligé, parce que si effectivement nos habitations aujourd'hui, le coût énergétique est souvent représenté par la construction en elle-même du bâtiment, il n'en reste pas moins que c'est véritablement une fois le logement aménagé et utilisé que les émissions augmentent. En effet, pour une très grande majorité des Français, la majeure partie de nos émissions de gaz à effet de serre personnelles passe par nos habitations et leurs aménagements. Gaz, électricité, béton, placo, etc. Une maison construite en béton par pin, avec comme chauffage une alimentation au gaz, émettra 2 à 3 fois plus qu'une maison construite en matériaux renouvelables et utilisant l'électricité comme moyen de chauffage, par exemple. Un chiffre tout de même à remettre dans son contexte aujourd'hui, car s'il y a effectivement une différence notable entre les deux, cela est principalement lié aujourd'hui à l'utilisation des matériaux comme le béton et non plus au chauffage. Mais alors pourquoi ? Eh bien, c'est une suite directe de la réglementation sur l'isolation de nos habitations de 2012 qui oblige toutes les nouvelles constructions à respecter un seuil minimum de protection des bâtiments, limitant de même les émissions liées au chauffage l'hiver ou à la climatisation l'été. C'est là le dernier point à prendre en compte pour comprendre ce qui pose problème dans notre parc immobilier.
Et pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs, Thomas, le secteur de la construction avant les années 2010, c'était 60 à 70% d'émissions liées au chauffage des bâtiments et 30 à 40% liées à la construction. Et c'est un chiffre qui, depuis la mesure énergétique pour l'isolation des logements, s'est aujourd'hui inversé avec 70% des émissions qui viennent de la construction et 30% pour le chauffage.
Tout à fait. Et c'est précisément en ces points que la lutte contre le réchauffement climatique dans le secteur de l'immobilier est en partie si difficile. En cause, si pour d'autres secteurs comme celui aérien ou automobile, une certaine uniformité des normes a été mise en place depuis de nombreuses années, celui de la construction reste très hétéroclite. À ce titre, si en France l'électricité est en grande partie décarbonée due à l'utilisation des centrales nucléaires, il est aussi bon de rappeler qu'un bâtiment, c'est un tout, avec sa construction, son chauffage et aussi son isolation. Si on prend l'exemple de tout à l'heure avec nos deux maisons, l'une en béton et l'autre en matériaux composites. Si la maison en béton est mieux isolée que celle en composite, ce serait celle en béton qui, à terme, émettrait moins de CO2. Une situation qui impacte de nombreux autres pays européens, comme l'Allemagne par exemple, pour qui l'électricité est encore produite en majorité par des énergies fossiles comme le charbon ou le gaz.
Et finalement, quelle solution a-t-on concrètement, Thomas, aujourd'hui pour réduire nos émissions en respectant toutes ces normes ?
Eh bien justement Hugo, j'y arrive. L'objectif aujourd'hui selon les différents organismes de protection de l'environnement n'est donc pas de reconstruire tout notre parc immobilier vite en matériaux composites, mais d'aménager les bâtiments premièrement sur une isolation réglementaire et saine pour l'ensemble du parc. En aménageant correctement les bâtiments, cela permettrait sur le long terme de limiter la consommation énergétique à l'intérieur des logements et de pouvoir progressivement remplacer certains matériaux lourds comme le béton au fil des rénovations, atteignant de fait l'équilibre souhaité entre construction, chauffage et isolation.
Ben merci beaucoup pour cette chronique Thomas, c'était hyper intéressant.
Merci.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine aussi Aline.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Et le pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Nous on se retrouve dès lundi à bord du 103 FM. D'ici là, très très bon week-end à toutes et à tous. Et les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Hein.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.